autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous demander de quoi est fait le cosmos et quelles sont ses lois. Question auxquelles la physique a apporté des réponses vertigineuses au cours du XXe siècle, en redéfinissant l'espace, le temps et l'atome, sauf qu'aujourd'hui, les physiciens théoriciens semblent un peu dans l'impasse. Comment unifier les théories de l'infiniment petit avec celles de l'infiniment grand, la mécanique quantique avec la relativité générale, pourquoi l'essentiel de la matière qui compose l'univers nous reste inconnu, et si pour résoudre l'énigme de la matière noire, de l'énergie sombre ou de la masse des neutrinos, il fallait inventer une nouvelle physique, en germe déjà dans l'esprit de physiciens théoriciens comme notre invité, Yann Mambrini, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique des deux infinis à Orsay, auteur de La Nouvelle Physique aux éditions Albin Michel, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir aujourd'hui. C'est cadeau à tous les étages, car nous avons aussi le grand plaisir, nous aurons le grand plaisir, et nous l'avons tout de suite, de féliciter notre nouveau lauréat de la lunette astronomique, offerte par SSVI et RFI en partenariat avec la revue web L'Astronomie Afrique. Et c'est le roulement de tambour, le club d'astronomie de Mahajanga à Madagascar, qui est l'heureux élu et qui pourra donc célébrer astronomiquement le prochain festival cet été, Mahajanga sous les étoiles, auquel nous nous associerons bien sûr avec le planétologue Sylvain Boulet, que vous retrouverez aujourd'hui en fin d'émission pour notre éphéméride mensuelle du ciel d'Afrique. Autour de la question, pourra-t-on comprendre les lois ultimes du cosmos, carrément ? Bienvenue pour nous y préparer ensemble, en commençant par repartir sur les traces de la particule la plus singulière de l'univers, le fameux boson de Higgs, découvert au CERN, le grand accélérateur de particules à Genève, le 4 juillet 2012, en hommage à Peter Higgs, décédé le 8 avril dernier, lauréat du prix Nobel, pour avoir prédit dès les années 60 l'existence de cette particule, de ce boson.
I think we have it. You agree?
Je suis vraiment stupéfait, je n'aurais jamais pensé assister à cela de mon vivant.
La découverte d'une nouvelle particule, c'est un peu le rêve pour un chercheur dans notre domaine. Donc ça a été un moment magnifique, ça a été un aboutissement, un début. Aboutissement parce que c'était un long chemin. Un long chemin avec des grands défis. Et ça a été un chemin accompli à travers la collaboration des milliers de scientifiques du monde entier. Donc c'était un peu l'aboutissement de découvrir cette particule très spéciale, parce que le boson de Higgs est une particule vraiment spéciale, différente par rapport aux autres particules qu'on avait découvertes auparavant. Mais c'est aussi le début d'un nouveau chemin, parce que le boson de Higgs lui-même reste une particule mystérieuse et peut-être la clé pour la porte vers la nouvelle physique.
Une nouvelle physique à inventer, on vient d'entendre Fabiola Gianotti, la directrice générale du CERN, et la voix, on l'a entendu aussi, du prix Nobel Peter Higgs, auquel nous rendons hommage quelques jours après son décès, à l'âge de 94 ans, car cette particule si singulière, ce boson de Higgs, est vraiment une des découvertes majeures de ce début du XXIe siècle, une nouvelle particule élémentaire, un des maillons de cette nouvelle physique que vous cherchez à bâtir. Yann Mambrini, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour partager justement vos pistes de recherche. Vous avez d'ailleurs été informé, vous le dites, dans cet ouvrage La Nouvelle Physique, de la découverte du boson de Higgs 6 mois avant, enfin dès la fin 2011, c'est ça, par un email assez énigmatique.
Oui, en fait, cette particule, on la cherchait depuis des années, depuis 50 ans. Elle avait une caractéristique, c'est qu'elle pouvait décrire parfaitement bien la masse de toutes les particules de l'univers, et ça correspondait aux théories que l'on avait. Donc c'était une particule qui était enseignée aux universités parce qu'on savait qu'elle était là, mais on ne l'avait pas encore découverte. Pour découvrir une particule, il faut la créer en fait, la reproduire en accélérateur. D'après la formule d'Einstein, E égale mc2, E égale énergie, m c'est la masse. Donc en donnant suffisamment d'énergie à des particules légères, on peut créer des particules massives, dont le boson de Higgs. Donc il décrivait la masse de toutes les particules, mais pas sa propre masse, donc c'est la seule qui nous manquait. Donc il fallait pour ça la créer, pour la connaître, on n'avait pas de théorie pour la connaître. Et donc en fait, effectivement, les expériences en accélérateur et en physique des particules sont très, très, très exigeantes dans le terme de découverte. Souvent, on me demande, c'est quoi découvrir ? On vous avait dit, on a découvert le Higgs.
Ouais, c'est plus compliqué que ça. Théoriquement, ça avait été prouvé, on l'a...
Découvert, pour nous, il faut que ce soit sûr à 99,99997%. On a des critères très précis pour être sûr qu'un particule est découverte. Et en général, on peut avoir des données un peu avant, et si on a des petits complices dans l'expérience, avant d'être
ce
sûr
que vous aviez,
à voilà, 99,99%. On peut avoir des petites données avant, et c'est vrai que 6 mois avant, j'ai eu la masse. J'étais pas le seul, on dit une vingtaine, je pense, parce qu'il y a 20 articles qui ont paru avant la découverte officielle. Donc j'en ai profité, en effet.
Mais vous avez reçu un email où il était marqué 125,
oui,
c'est ça?
Oui, parce que mon complice n'avait pas le droit d'écrire un email. Donc j'avais juste dans le subject 125, qui était la masse du boson de Higgs, 125 fois la masse du proton. C'était le chiffre qu'on attendait, en fait. Et j'étais content de le savoir. J'avais compris tout de suite, en voyant le sujet, ce qu'il voulait dire.
Ça y est, qu'on avait donc découvert, entre guillemets, ce boson. Boson de Higgs, c'est une découverte, une brique élémentaire qui vient s'ajouter au puzzle, mais ça n'est qu'une brique de cette nouvelle physique. C'est le titre de votre ouvrage, Yann Mambrini. Alors, qu'est-ce que c'est que la nouvelle physique ? Parce que vous vous définissez comme physicien théoricien de la nouvelle physique.
Oui, en anglais, on appelle ça BSM, c'est Beyond Standard Model, c'est au-delà du modèle standard.
C'est ça.
Donc, c'est le terme anglais, la nouvelle physique. Alors, il faut imaginer la physique, toute physique actuelle a été à un moment donné une nouvelle physique. Hein. Une nouvelle physique, c'est la physique qui n'est pas encore expérimentalement prouvée. Il faut imaginer ça comme la physique comme une pièce de puzzle. On a un puzzle, on a beaucoup de pièces et on a 4, 5, 6 pièces qui ne rentrent pas dans le puzzle. Donc, il faut les faire rentrer dedans. Alors, on sait que le cadre du puzzle qu'on a est limité. Toute théorie a ses limites. La théorie de Newton est valide au-dessous de la vitesse de la lumière. Après, il faut utiliser Einstein. La théorie de la gravité, on sait, est aussi une théorie effective. On en parlera, je pense, à la fin de l'émission. C'est une théorie qui est valide au-dessous d'une échelle qu'on appelle l'échelle de Planck. Chaque théorie a un domaine de validité. Et donc, il se trouve qu'on sait que le cadre qu'on a est limité. Donc, il faut agrandir le cadre parce que la gravité n'est pas inclue dans ce cadre-là. Donc, les pièces qu'on a de puzzle sont hors du cadre. Donc, notre but, c'est d'essayer de comprendre comment on doit agrandir le cadre. Et surtout, c'est essayer de comprendre le lien entre les pièces de puzzle que l'on a. On a des pièces de puzzle qui ne rentrent pas dans le cadre, mais elles ont peut-être un lien entre elles parce qu'elles font partie du même puzzle.
Alors, quelles sont les pièces qui ne rentrent pas dans le cadre? Quelles sont les pièces que vous avez déjà, enfin...
Exactement. On a 5-6 pièces. Je vais vous donner 6 pièces qui ne rentrent pas vraiment dans le puzzle. Et notre but en tant que théoricien, c'est de trouver, d'inventer, de fabriquer dans notre tête la forme de la pièce qui manque entre celle que l'on a.
C'est-à-dire que vous êtes théoricien et vous allez les concevoir, les imaginer, théoriser jusqu'à ce que ce soit prouvé, découvert
Il y a deux possibilités. Soit les expérimentateurs nous donnent une pièce qui n'était pas dans nos théories, et on dit « Ah mince, cette pièce-là, on ne l'avait pas dans
notre
théorie,
il va falloir la rentrer,
donc on va essayer de trouver des pièces qui vont relier cette nouvelle pièce avec nos modèles à nous, on va théoriser ce qui est le lien. » Ou parfois, c'est la théorie qui prédit des particules que les expérimentateurs n'ont pas trouvées. Donc on peut prédire nous-mêmes des pièces, on peut construire des pièces et les donner aux expérimentateurs en disant « Regardez cette pièce, vous ne l'avez pas. Nous, théoriquement, on sait qu'elle existe parce qu'elle est en train de lier deux autres pièces. » Essayer de la trouver. Et en général, il la trouve.
Et donc, dans ce puzzle, alors
Quelques pièces. Les pièces assez récentes, beaucoup de pièces sont assez récentes. Il y a 25 ans, hein, c'est l'anniversaire, on a découvert l'énergie noire. Donc on a découvert que l'énergie, que l'univers est en expansion accéléré. On savait qu'il était en expansion depuis Hubble, mais on s'est rendu compte que depuis 5 milliards d'années, il a repris une phase accélérée, une phase d'expansion accélérée, un peu comme un Big Bang. On pensait qu'il devait ralentir, mais non, il accélère. On est re-rentré dans une phase de Big Bang. La matière noire, il y a plein de preuves.
L'énergie sombre ou l'énergie noire, c'est pour l'accélération de l'expansion de l'univers.
On en parlera, je pense, un peu plus tard, plus
Absolument.
En détail.
La matière noire.
La matière noire, c'est une sorte de glue qui est responsable de la formation des galaxies, parce qu'on sait que les galaxies n'ont pas pu être formées aussi rapidement sans avoir eu avant une sorte de glue qui a permis aux atomes, notamment à la formation des étoiles, des gaz, etc. Et on la connaît via la rotation des galaxies, parce qu'on mesure la masse des galaxies par rapport à leur vitesse de rotation, par rapport à leur vitesse dans des amas de galaxies. On mesure aussi, on a une photo de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est la première lumière du Big Bang. En regardant cette photo, c'est comme une empreinte digitale. On peut reconnaître de quoi est fait l'univers. Donc, on le voit aussi dans cette photo-là. Donc, on sait qu'elle est présente, mais on ne sait pas de quoi elle est constituée. Donc, c'est une deuxième pièce.
Oui, c'est ça. Une deuxième pièce assez énorme. Hein,
Alors, si on fait des chiffres, ça fait en gros, on donne des chiffres, 67% d'énergie noire, 28% de matière noire et 5% de matière visible. Donc, on ne serait que 5% de l'univers. 67% serait fait d'énergie noire et 28% de matière noire. Une autre pièce, évidemment les trous noirs, je pense qu'on en parle beaucoup. Ça, c'est une pièce typiquement qui est un objet théorique à l'origine, dans les années 1917, 15-17 avec Schwarzschild, entre autres, en 1915.
Et qui ont été photographiées.
Exactement. Donc c'est typiquement une pièce théorique qui est devenue un objet physique une fois qu'on a pris la photographie. Mais c'est pareil, il fait partie de ce qu'on appelle les problèmes de gravité quantique. Il y a deux endroits dans l'univers où on n'a pas de description hors du puzzle, hors du cadre, qui sont les trous noirs et le Big Bang, parce que c'est deux domaines où les énergies en jeu sont telles qu'elles sont au-dessus de cette fameuse limite que je vous ai dit, la masse de Planck. C'est un peu comme si, à une théorie Newton, on allait au-delà de la vitesse de la lumière, donc on est obligé d'aller de trouver une théorie qui colle. C'est un peu pareil, on a deux domaines dans l'univers, trous noirs et Big Bang, où on ne peut pas aller en fait au-delà.
Une autre pièce peut-être du puzzle, puisque vous parlez des trous noirs qui fait avancer cette nouvelle physique du cosmos, c'est la détection des ondes gravitationnelles qui a eu lieu en 2016. Alors, corrigez-moi si j'ai faux, ce sont quoi ? Des oscillations de l'espace-temps prédites par la théorie d'Einstein et qui se produisent lors d'événements cataclysmiques comme la coalescence de deux trous noirs, qui ont donc été détectés, ces ondes gravitationnelles, pour la première fois en 2016, ce qui a aussi ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, permis de remonter le temps et l'espace autrement qu'avec la lumière, comme nous l'expliquait ici même un autre brillant physicien, trop tôt disparu, Pierre Binet-Truy, que vous avez bien connu, Yann Mambrini. Oui, c'est ça. Vous avez travaillé sous sa direction et dont le décès brutal le 1er avril 2007, soit un an à peu près, après la première détection des ondes gravitationnelles, a marqué toute la communauté des physiciens. Je propose d'écouter le professeur Pierre Binet-Truy dans l'entretien qu'il nous avait accordé au moment de la détection des ondes gravitationnelles. C'était le 25 mars 2016.
Ce qui a vraiment frappé tout le monde, c'est que l'information qui a été émise à ce moment-là, donc l'information par exemple sur les masses de ces trous noirs, sur la distance de ces trous noirs, tout ça est en fait encodé dans les ondes gravitationnelles et elles se sont baladées dans l'univers pendant 1,3 milliard d'années pour arriver le 14 septembre et elles avaient encore toute cette information encodée à l'intérieur. Et donc, quand on a vu quelques oscillations, puisqu'en fait, il s'agit des variations de distance dans ces détecteurs, quand on a vu ces quelques oscillations qui ont duré moins d'une seconde, eh bien, on a pu reconstruire entièrement l'événement. C'est ça qui est probablement le plus fascinant. Avec la lumière, généralement, la lumière diffuse, la lumière est arrêtée, etc. Et donc, quand on reçoit l'information lumineuse, dans un certain nombre de cas, elle a été dégradée par tout ce que la lumière a rencontré. Ici, les ondes gravitationnelles ne sont pas du tout dégradées. On le savait, mais de le constater, c'est tout à fait fascinant.
Fascinantes ondes gravitationnelles, comme nous le rappelait Pierre Binet-Truy, trop tôt disparu pour voir à quel point ça a véritablement ouvert une nouvelle fenêtre d'observation de l'univers, Yann Mambrini.
C'est vrai. J'ai émouvant d'écouter Pierre après ces années-là. Alors, c'est vrai que pour comprendre peut-être les ondes gravitationnelles, il faut comprendre ce qu'est la théorie de la gravité pour Einstein par rapport à Newton. Parce qu'en fait, paradoxalement, je trouve qu'elle est même plus facile, la théorie d'Einstein, que celle de Newton. Mathématiquement plus complexe, mais conceptuellement beaucoup plus facile. Newton explique que la pomme est attirée par la Terre parce qu'il y a une force d'attraction gravitationnelle et que la Terre est attirée par le Soleil parce que le Soleil attire la Terre, parce qu'il est massif, etc. Donc il y a une force d'attraction universelle gravitationnelle sans jamais expliquer ce qu'est la force et le concept de force, qui est très mystérieux. C'est quoi une force? Pourquoi on s'attire? Et Einstein, en fait, a une vision vraiment différente. Et je vais vous donner un petit, si vous voulez bien, exemple, une petite illustration pour vous montrer la différence entre Einstein et Newton. Il faut vous imaginer deux fourmis sur une citrouille. Elles sont très petites, la citrouille est très grande pour elles.
D'accord.
Et elles montent vers le sommet de la citrouille en suivant des rainures de la citrouille. D'accord.
Pour elles,
elles sont tout petites, donc elles ont l'impression que la citrouille est plate, donc elles ont l'impression de marcher tout droit. Tous les deux se dirigent vers le pôle nord, elles se regardent et vraiment tous les deux vont vers le pôle nord.
Mais le sommet de la citrouille.
Clairement, elles se rapprochent petit à petit l'une de l'autre. Donc la fourmi de gauche, je vais l'appeler Newton, la fourmi de droite, je vais l'appeler Einstein.
Formidable.
Elles vont vers le pôle nord, vers le sommet de la citrouille, elles y vont toutes les deux tout droit. Tout droit. Celle de gauche est persuadée qu'elle va tout droit. Celle de droite est persuadée, mais elle se rapproche quand même. Elles ne comprennent pas parce qu'elles prennent la même direction en se rapprochant. Donc la fourmi de gauche qui s'appelle Newton va dire il y a une force d'attraction entre nous, on s'attire. Je m'attire, tu t'attires et cette force d'attraction, je vais appeler ça force gravitationnelle. Il va expliquer que la Terre attire la Lune attire la Terre parce qu'on s'attire. Sauf qu'Einstein a compris que l'espace est courbe. Il a compris qu'on a l'impression d'aller tout droit, mais
et qu'en fait, la courbure de l'espace-temps.
Tout le monde va tout droit. On va tous tout droit. Et on a l'impression de s'attirer parce qu'on va tout droit dans des espaces courbes, comme les deux fourmis dans la citrouille. Elles ont l'illusion de s'attirer. Elles ne s'attirent pas. Il n'y a pas d'attraction gravitationnelle pour Einstein. Tout le monde va toujours tout droit dans des espaces qui sont courbés. Donc le Soleil courbe l'espace, la Terre tourne l'espace, tout le monde courbe l'espace. Et la courbure de l'espace fait que nos mouvements sont déterminés par la courbure de l'espace. Il n'y a aucune attraction entre chacune des personnes. Et comme l'espace
est courbe... Merci Yann Brunier, là c'est magnifique, parce que les deux fourmis qui s'appellent Einstein et Newton sur une citrouille, la courbure de l'espace-temps,
il fallait penser. Alors pourquoi il a fallu autant de temps pour penser? Je pense que c'est ce que j'aurais dû demander ça au ministère de l'Éducation. Le problème, c'est que tous les cours qu'on a eu en mathématiques ont été faits sur des tableaux plats. Un Pythagore, parallèles ne se coupent jamais, nos tableaux sont plats. Donc vous avez une notion d'espace d'un tableau plat qu'on appelle Euclide, la physique euclidienne, théorie d'Euclide. Et c'est dommage, et je devrais demander au ministère de faire des cours sur les tableaux sphériques, les théorèmes seraient totalement différents, les sommes des angles des triangles ne feraient pas 180 degrés, Pythagore n'existerait pas, et on aurait une liberté en se disant c'est vrai que les parallèles qui se coupent à l'infini, c'est uniquement sur un tableau plat en fait, et plat c'est un cas très exceptionnel. Donc en fait c'est beaucoup plus général d'avoir quelque chose de courbe que de plat.
Donc, le monde est plutôt courbe que plat.
Bien sûr,
il n'est que courbe, le monde. Et nous sommes aussi dans ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est à partir... D'abord, il faut s'ouvrir l'esprit et essayer d'imaginer ailleurs et en dehors du cadre. C'est quand même ce que vous faites en tant que physicien théoricien. Mais vous êtes aussi... C'est-à-dire qu'il faut là bâtir une nouvelle physique. Ça veut dire que, pour reprendre Pascal, je crois, nous sommes tous des nains sur les épaules des géants. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au fond, il faut s'appuyer sur ce qui a été fait avant pour sortir après de ce cadre-là, au fond.
Et d'ailleurs, en vous disant appuyer, je reprends pour un autre exemple, si vous voulez bien. Vous êtes conscient que vous êtes en train d'accélérer en ce moment, non?
Oui.
Non?
Ah, que d'accélérer, moi?
Vous pensez que vous êtes au repos ou à accélérer, là, en ce moment?
Mais je sais que ça va très vite.
Non, là, en ce moment, vous êtes en train d'accélérer. Vous n'êtes pas au repos sur votre chaise, vous accélérez, vous êtes au consciente. Ça, c'est la différence entre Einstein et Newton. Newton est en train de vous dire que vous êtes au repos, là. Vous bougez pas.
Oui, d'accord, puisque je suis assis sur ma chaise devant
vous. Vous êtes en train d'accélérer. C'est ce
que
dit Einstein.
En train d'accélérer.
Oui, Einstein dit le contraire. Il dit vous accélérez. En fait, Einstein dit que la masse, c'est de l'accélération uniquement. Quand on est dans l'ascenseur et qu'il accélère, vous sentez que vous sentez plus massive, plus lourde. Quand il accélère, vous avez une masse sur vous un peu. D'accord ? Et la masse que vous avez là, c'est juste parce que vous ne tombez pas au centre de la Terre. C'est parce qu'il y a un sol qui vous empêche de tomber au centre de la Terre. Il faut vous imaginer le sol comme une fusée qui est en train de vous pousser vers le haut et vous empêcher de tomber. Donc votre masse est juste due au fait que le sol de la Terre est en train de vous empêcher de tomber. Si j'enlève le sol en dessous de vous, vous allez tomber en chute libre.
Oui.
Et là, vous allez être libre, comme les deux fourmis. Et vous allez vraiment. Donc le repos, c'est la chute libre. La chute libre, c'est l'état de repos. Là, il y a un sol qui vous empêche de tomber en chute libre. C'est la grande différence entre Newton et Einstein. L'état naturel de repos, c'est la chute libre.
Magnifique.
Pas le repos.
Je vous propose, chers amis auditrices et auditeurs, de méditer ce que vous venez nous expliquer. Moi, il faut que je digère le fait que je ne sois pas en chute libre et que je sois en pleine accélération.
C'est pour ça que j'ai de la masse.
D'accord, oui, j'ai une certaine masse, d'ailleurs, ça, je dois le reconnaître. Oui, d'accord. Écoutez, moi, je vous propose tout de suite de prêter l'oreille à votre choix musical qui va nous entraîner lui aussi bien, bien loin, Yann Mambrini, à écouter sans modération, puisque vous avez choisi Oiseau de Bertrand Belin et Bardenne, Tigre d'eau douce sur RFI. Nous, on adore, en chute libre ou pas, peu importe.
Les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers, je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse. Les avions de chasse. Les avions de ligne. Je survolerai les vignes. Je mangerai les raisins. Je chierai les pépins le long des cours d'eau. Si j'étais un oiseau. Et ma vie est à terre. Mon ventre est sur la pierre. Où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent. Et de muse en muse. De prairies en prairies. Je perpétue. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau.
Si nous étions des oiseaux, oui. Bertrand Belin sur RFI, dans une version qu'on vous fait découvrir avec Bardenne et Tigre Dodou sur RFI. En tout cas, merci pour ce choix musical. Yann Mambrini, pourquoi ce choix, au fait? Vous qui êtes physicien, théoricien, magicien à vos heures aussi, illusionniste.
Ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Oui. Je trouvais que, en parlant de gravité et de légèreté, je trouve qu'un oiseau, c'est sympa. Et je ne sais pas, moi, ce que je ferais si j'étais un oiseau. Et c'est vrai que c'est parce que j'ai un voisin dans un petit havre de paix normand qui est réalisateur et qui a fait un court-métrage qui s'appelle Le Loup de Tancarville. J'en profite pour faire un peu de publicité.
Mais récemment. Oui, faisons de la publicité.
Un court-métrage fantastique. Et c'était la musique du court-métrage. Et ça m'a tellement enchanté. C'est un court-métrage un peu surréaliste. Et voilà, ça m'a énormément plu. Vous pouvez aller voir sur Internet, je pense.
Comment il s'appelle, ce court-métrage?
Le Loup de Tancarville.
Eh ben voilà, c'est noté. Autour de la question, comment comprendre les lois ultimes du cosmos? C'est la question qui nous habite aujourd'hui avec vous. Et pourquoi il faut bâtir une nouvelle physique? La nouvelle physique, c'est le titre de votre dernier ouvrage, paru chez Albin Michel. Et grâce à vous, on comprend tout. Yann Mambrini, même comment deux fourmis nous prouvent comment l'espace est courbe autour d'une citrouille. Pourquoi est-ce que seule la chute nous rend complètement libres et égaux et universels? En tout cas, cette nouvelle physique, c'est le Graal des physiciens comme vous, mais aussi des astrophysiciens. Physicienne comme Barbara Perry, que je propose d'écouter, spécialiste du soleil au CEA, elle était tout récemment notre invitée.
Nous, en astro, on va avoir un peu les deux extrêmes qui continuent à nous poser problème, parce qu'il y a la physique de l'infiniment petit, qui en fait est très importante, parce que le soleil pourrait pas brûler sans l'effet de tunnel qui a lieu en fait à l'intérieur de son cœur. Donc nous, en fait, ça nous intéresse de savoir ce qui se passe au niveau de l'infiniment petit, et on a besoin paradoxalement de le savoir pour que les étoiles brûlent. Donc j'aurais envie de demander, il y a quoi de nouveau du côté de l'infiniment petit et comment est-ce que ça peut impacter l'infiniment grand? Et puis de l'autre côté, voilà, l'infiniment grand, toutes les théories, c'est quand même fou qu'il y a plein de théories sur la gravité qu'on ne comprend pas encore complètement. Donc voilà, comment est-ce que les nouvelles théories sur la gravité, ça peut changer aussi notre perception de l'univers?
Que pouvez-vous répondre à l'astrophysicienne Barbara Perry, spécialiste du Soleil?
Ouais, alors elle touche effectivement à la gravité quantique, parce que l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est lié au domaine qu'on appelle gravité quantique. Alors, on est dans une phase, on n'est pas loin, je pense, de la vérité. Il y a plein de théories qui existent, je ne vais pas rentrer en détail, supergravité, théorie des cordes, gravité à boucle. Mais le problème qu'on a en gros, c'est qu'il y a une révolution entre Maxwell, qui décrivait l'électromagnétisme, donc Maxwell 1870-65, qui décrit la lumière comme une onde, mais normale, comme des vagues électromagnétiques, on appelle ça continue. Et Einstein et Planck, dans les années 1900-1905, qui disent, qui quantifient, on appelle ça quantifier les vagues, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y avait des problèmes liés à Maxwell, c'est le problème du corps noir, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a un problème expérimental qui est résolu si les vagues ne sont pas continues, mais arrivent par paquets, des paquets qu'on appelle des quantas. Donc des vagues sont quantifiées, on ne peut pas avoir n'importe quelle hauteur de vague. On peut avoir des vagues de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, mais pas 1 mètre 50 ou 1 mètre 30, par exemple. Donc c'est comme si on quantifiait les vagues d'un lac. Mmh. Et quand on quantifie des vagues comme ça, on arrive à résoudre le problème du corps noir. Donc nous, en ce moment, je vous ai parlé des ondes gravitationnelles, vous avez parlé de ça. l'espace est courbe, donc s'il est courbe, je peux en créer des vagues, comme dans un, sur un lac, comme une pièce de tissu, comme un drap. Et ces vagues sont pour l'instant au niveau de Maxwell. La théorie de gravitation, c'est l'équivalent de la théorie de Maxwell. Les vagues, les ondes gravitationnelles dont Pierre Bintrui parle, qu'on a découvert en 2015, sont classiques. C'est-à-dire que c'est les ondes de Maxwell. Et donc, le grand défi, c'est de trouver un Planck et Einstein, maintenant, qui seraient capables de quantifier ces vagues-là, de faire ce que Planck et Einstein ont fait pour Maxwell, de le refaire pour la théorie de la gravité courbe, la fameuse citrouille et les fourmis. C'est-à-dire que les fourmis, quand elles se déplacent sur les citrouilles, elles vont créer des vagues, comme si on se déplace sur le lac. Et les vagues qu'elles vont créer en allant au pôle Nord, on appelle ça des ondes gravitationnelles. Mais ces vagues, elles doivent être quantifiées. Il faut les inclure dans la théorie quantique, il faut donc les quantifier. Le quanta de la lumière, on appelle ça un photon. Le quanta de la gravité, si on le trouve, on appelle ça le graviton. On n'est pas très malin.
Et donc, le graviton, c'est le Graal.
Ouais, le graviton, ce serait le Graal, exactement. La découverte de graviton serait le Graal. Moi, je travaille en ce moment sur la production de graviton au début de l'univers, parce que dans le Big Bang, il y a une grosse déformation de l'univers. Et cette grosse déformation de l'univers a créé des vagues aussi. Et moi, j'essayais de voir si on peut observer les vagues de ce Big Bang. Donc, quantifier les vagues, c'est-à-dire dire que les vagues, les ondes gravitationnelles sont une hauteur de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et pas 1 mètre 50 ou 1 mètre 20, ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce serait une théorie quantique de la gravité parce qu'on a réussi à quantifier une théorie qui est pour l'instant classique.
Vous pensez qu'on verra ça, nous verrons ça de notre vivant, cher Yann Mambrini ?
J'espère, du moins mes étudiants, je suis trop vieux pour ça. Il paraît qu'il faut avoir moins de 25 ans pour faire les grandes découvertes. Donc, comme mes étudiants ont vers 22 ans, je leur dis à chaque fois en début de cours, j'espère que vous le trouverez, que je serai encore là pour voir quelle sera la théorie. Je pense qu'on n'est pas très très loin. Il y a des, enfin, je peux pas savoir parce qu'on l'a pas découvert par définition. Je connais pas à distance, mais il y a quand même, on a une théorie des cordes hein, qui marche, mais qui est quand même très complexe.
C'est la question d'ailleurs d'une de nos auditrices à Madagascar.
Très complexe. Si je devais tirer quelque chose de la théorie des cordes, je tirerais ce qu'on appelle la supergravité, qui est issue de la théorie des cordes. Alors je vais pas dans les détails, mais une des conséquences, c'est la supergravité. Et supergravité, c'est tout simplement, on s'est rendu compte que quand on veut rendre une théorie symétrique entre deux éléments quantiques, en quantique, on a des particules de matière, on leur donne le nom de fermions, comme des protons, des neutrons, on a des particules d'interaction, de force, comme les photons, la force d'interaction forte et faible. Donc on a force et matière, c'est comme ça qu'on distingue deux types de particules, leur nom c'est bosons et fermions. Et on s'est rendu compte que si on fait une symétrie entre bosons et fermions, et qu'on veut que la symétrie soit locale, on appelle ça, donc c'est compliqué une théorie de jauge, mais que la symétrie soit valable partout dans l'univers. Ce qu'il faut rajouter, c'est la théorie d'Einstein. C'est-à-dire qu'une symétrie entre force et matière, la conséquence, si on veut que la théorie soit vraiment symétrique partout dans l'univers, il faut inclure la théorie de la gravité d'Einstein. Donc c'est là où on voit un premier lien entre physique quantique, donc bosons et fermions, force et matière, et interaction et force gravitationnelle, donc déformation d'espace-temps.
Et entre l'infiniment petit et l'infiniment grand.
Exactement. C'est ça aussi. Si je transforme un boson en fermion, donc une particule de force en matière, et que je retransforme la force en matière, en fait, je me déplace dans l'espace. Donc cette théorie d'espace-temps, une théorie entre symétrie en boson et fermion, on appelle ça la supergravité. Et voilà, ça, je pense que c'est une possibilité.
Ben vous avez répondu à la question de Mamie Rakotomiaou, dont on arrive à Madagascar, hein, qui vous demandait la théorie la plus prometteuse en cosmologie et de parler de la théorie des cordes. Il y a pas mal d'autres questions sur nos réseaux sociaux, notamment une question depuis Cotonou de Herbert Goodpower Dan, qui vous demande si le cosmos est infini ou s'il est limité. Cher Yann Mambrini, est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
C'est aussi une très bonne question, hein, l'infini. D'ailleurs, j'ai souvent cette question-là quand je donne un séminaire sur l'expansion de l'univers, on me demande si ça dépend dans quoi. Quand je dis l'univers s'étend, on me dit dans quoi. Alors, c'est vrai que c'est assez complexe parce qu'il ne s'étend pas dans quelque chose, il s'étend tout court, c'est lié à l'infini. Donc, comment imaginer ça? Il faut vous imaginer juste une membrane infinie, par exemple. Si je la multiplie par deux, elle reste encore infinie. Parce que l'infini fois deux, ça reste l'infini. Oui. La membrane infinie ne s'étend pas dans quelque chose, l'infini s'étend dans lui-même. Une autre façon de voir la chose, je pense, c'est un collègue américain qui m'a donné ce petit trick pour les étudiants, pour vous donner une idée. Quand on imagine l'univers qui s'étend. Donc, je vois bien que je suis là, je vois tout qui s'éloigne de moi. L'univers est en expansion.
Oui.
Plutôt que voir ça, vous êtes dans une chambre, la chambre s'étend, et vous dites, si ma chambre s'étend, elle s'étend dans quoi? Et c'est normal, vous êtes dans une pièce, si votre pièce grandit, vous allez vous dire dans quoi? C'est normal. Maintenant, faites l'exercice inverse. Imaginez que la pièce ne s'étend pas, mais vous rapetissez-vous. Si vous rapetissez dans la pièce, vous avez l'impression que la chambre s'étend. elle ne s'étend pas. Vous rapetissez dans la chambre. Vous n'allez pas vous dire, je me rapetisse dans quoi ? Vous rapetissez dans la chambre, elle-même, ouais. dans l'espace. Et vous avez l'impression que la chambre s'étend. Et dans ce cas-là, vous résolvez le problème. Donc en fait, l'univers peut être infini. Là, on peut s'étendre à l'infini. L'infini peut être fixe. L'horizon peut être fixe. Mais on peut s'étendre, nous, ou se rapetisser très très petit, jusqu'à l'infiniment petit. Et on aura l'impression que l'univers sera infini.
Comment est-ce qu'on fait pour penser comme ça, Yann Mambrini ? Parce que vous pensez, vous théorisez comme ça, vous avez les outils mathématiques et physiques pour le faire, on est d'accord, et nous, on ne les a pas. Mais comment fait-on pour penser comme ça ? Je l'ai dit, vous êtes aussi magicien, illusionniste, à vos heures perdues, c'est votre hobby à côté, je crois. Mais tout de même, comment est-ce qu'on fait pour penser comme ça, hors du cadre, justement, et autrement, plutôt que de se dire jusqu'où, voilà, ça s'élargit, ça s'étend autour de nous, ben non, et si je rapetisse, je peux le voir autrement. Parce que c'est quand même comme ça qu'on fait des découvertes, imagine.
Oui, c'est une très bonne question, et c'est vrai que quand j'ai des étudiants qui viennent en thèse, le choix des étudiants n'est jamais facile parce qu'il faut à la fois trouver quelqu'un qui soit capable de sortir du cadre. C'est important de sortir du cadre et pas être trop figé par le cadre et par les théories qu'on connaît. Mais en même temps, il faut être capable de reconstruire un cadre autour du cadre. Donc il faut être à la fois capable de sortir, mais pas faire n'importe quoi,
bah oui.
parce que dans ce cas-là, on peut vraiment dire n'importe quoi. Il faut être capable, comme l'a fait Einstein, de sortir du cadre, mais de reformer un cadre autour du cadre dont on est sorti, et de retrouver des théories qui sont prédictives ou fausses. Donc là, c'est un mélange d'imagination et de connaissances qu'on a. Enfin, on acquiert des connaissances avec le temps. Et souvent, en combinant deux types de champs, par exemple, vous avez parlé du champ du Higgs récemment.
Oui.
Il y a un autre champ, on appelle ça les champs scalaires, c'est le nom qu'on donne. Il y a un autre champ scalaire qui peut être responsable, par exemple, de l'expansion accélérée ou du Big Bang, qu'on appelle inflaton pour le Big Bang et champ de quintessence pour l'expansion accélérée. Et il a des caractéristiques assez proches du boson de Higgs. Et souvent, on se dit, on connaît un peu le boson de Higgs en tant que physicien des particules.
On pourrait
réappliquer ce qu'on connaît sur un autre domaine et voir ce que ça donne. Donc, en fait, c'est souvent les interfaces de domaines qui n'ont rien à voir, qui font émerger des choses très différentes. Le boson de Higgs, par exemple, était souvent, enfin, a émergé sous des théories plutôt liées à la physique statistique, en fait, plus qu'à la physique des particules à l'origine.
Alors, pour continuer de sortir du cadre, autre question d'une non-fidèle auditrice à Madagascar, Aina Rakoto, en quoi le principe holographique change notre regard sur le cosmos? Qu'est-ce que c'est que ce principe holographique?
Le principe holographique, c'est quelque chose qui est très lié à la physique du trou noir. C'est ce que je vous disais. Hein. Le trou noir, l'horizon du trou noir, on n'a pas de théorie qui est capable de nous l'expliquer parce qu'on est au-dessus de l'échelle de Planck, on est au-dessus de... Même le temps n'a plus vraiment de définition à ce niveau-là. La théorie holographique dit que c'est un paradoxe lié au paradoxe de l'information. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le problème quand un trou noir absorbe quelque chose, ce n'est pas très important. Ce qui nous embête, c'est qu'il absorbe l'information. En clair, si j'ai une banane, ma théorie physique est capable de remonter l'histoire de la banane. Toutes les équations physiques, si la pomme elle tombe, mon équation physique est capable de remonter le temps pour savoir d'où est tombée la pomme. C'est-à-dire que je n'ai pas de diable qui va, de diable de Maxwell, je dirais, de démon de Maxwell avec une paire de ciseaux qui va couper mon équation entre la Terre et le sommet de l'arbre et qui va dire entre-temps, je fais un miracle. Ça, la physique n'accepte pas les miracles. Sinon, la physique n'a pas de sens. Donc l'information, même en physique quantique, l'information est gardée. L'information, c'est-à-dire que toute l'information de la banane est conservée dans son processus de formation. Donc on n'a pas le droit de perdre l'information. Dans un trou noir, en fait, l'information est perdue. Donc, perdre l'information, c'est-à-dire que la physique n'a plus de sens. Donc où va l'information? Quand j'enche une banane dans le trou noir, où va l'information de la banane? Ce n'est pas tant la banane qui m'intéresse, c'est toute l'information, l'histoire qu'elle a. L'histoire de la banane ne peut pas être perdue. Donc il y a une alternative de trou de ver, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui donne une émission de radio dans une autre partie de l'univers,
qui voit
des trous blancs où des bananes sortent. Il essaie d'expliquer le paradoxe d'information parce qu'ils ont trouvé un endroit où des bananes sortent. Ils disent,
ça, c'est une hypothèse, d'accord.
Ou d'autres hypothèses qu'on appelle holographiques, c'est qu'en fait, l'information dans un trou noir est assez particulière parce qu'elle est liée à l'entropie du trou noir, qui est liée à la surface du trou noir. Et c'est assez particulier, un trou noir. C'est lié à la radiation.
Un peu gris sur les bords, disait Stephen Hawking.
Oui, un peu gris parce qu'il rayonne. Et surtout, on appelle ça l'entropie, toute son information est codée sur la surface. Et comme un hologramme, si on est capable de coder toutes les trois dimensions sur deux dimensions, peut-être que la théorie graphique, nous-mêmes, nous serons peut-être qu'en deux dimensions, mais une image trois-dimensionnelle en fait, d'un univers à deux dimensions. Et toute l'information qu'on a, qu'on vit en ce moment, n'est que codée sur deux dimensions, en fait. Mais on a l'illusion de voir en trois dimensions.
Oula, je ne sais pas si je vous suis, là, Yann Mambrini, parce que c'est l'allographie, mais je préfère vous voir en plusieurs dimensions, comme vous êtes d'ailleurs. Mais vous avez évoqué le nom, évidemment, du grand Stephen Hawking. Alors, une immense question qui vous intéresse, hein. Bon physicien théoricien que vous êtes, c'est le temps. Yann Mambrini, le temps auquel vous avez aussi consacré un ouvrage, hein, Histoire de temps, aux éditions Ellipse. Donc, Stephen Hawking, auteur, lui, d'une brève histoire du temps, on le sait, ce qui est beaucoup intéressé. Et je vous propose, du coup, un nouvel éclairage sur l'origine du temps, la dernière théorie de Stephen Hawking. C'est un ouvrage signé par son plus proche collaborateur, son ami aussi, le cosmologiste belge Thomas Hertog, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici même, en direct. Il était à votre place il y a un peu plus d'un an, c'était le 15 mars 2023.
Dans la théorie que j'ai développée avec Hawking, le temps est aussi un phénomène émergent. En fait, quand on pense toujours que le temps est juste là, que le temps est un fleuve qui coule de l'infiniment passé vers l'infiniment futur. Mais la cosmologie nous a montré que le temps a eu un début. Mais comment le temps peut avoir un début? Comment le temps peut exister? En fait, je pense que la réponse est qu'il faut se réaliser que le temps est aussi un phénomène émergent. Et on a même une théorie qui montre ça. Quand on a descendu vers le Big Bang, on a développé un modèle du Big Bang qui a un aspect d'un hologramme. Et un hologramme, comme vous savez, il a toujours une dimension qui est encodée, qui n'est pas vraiment là, mais qui est émergente. Dans l'hologramme du Big Bang que j'ai développé avec Hawking, c'est la dimension du temps qui est émergente. Donc, quelque part, je pense de nouveau que le temps n'est pas une sorte de truc métaphysique qui est là, a priori, mais qui est quelque part émergente. Évidemment, comment ça se passe, ça reste à comprendre, à mieux comprendre.
Sacré challenge, sacré défi que de mieux comprendre l'émergence du temps. Vous voulez réagir, j'imagine, Yann Mambrini, à ces propos de Thomas Hertog.
Oui, donc tout ça a son lien au théorie justement de quantique de la gravité. Et le trou noir est effectivement un objet fantastique parce que, ou le Big Bang, hein, les deux sont assez similaires.
Trou noir et Big Bang.
Oui, c'est très similaire.
On arrive à la fin de cette émission, presque à la fin de cette émission, donc voilà, il faut le dire maintenant.
Dans un trou noir. Et donc c'est vrai que, comme je vous ai dit, l'espace en fait peut émerger, hein, une dimension peut émerger de deux dimensions, c'est le principe holographique. Mm-hmm. Et en fait, comme Einstein l'a bien prouvé, temps et espace sont liés. Si je suis capable de faire émerger une dimension d'espace, pourquoi pas aussi de faire émerger une dimension de temps, voire deux, trois dimensions de temps. D'autant plus que si le temps devient quantique, alors ça devient encore plus science-fiction, hein, j'en parlais avec Alain Aspect, avec l'intrication quantique, si l'intrication quantique s'applique aussi sur le temps, parce que d'un seul coup, si on quantifie la relativité, on quantifie l'espace et le temps, donc le temps serait peut-être pas exactement défini, serait un peu flou, il serait une seconde et demie, 0,5 secondes, ça dépendrait de quand c'est, votre temps à vous n'est pas le même que le mien, le temps changerait. Donc c'est vrai que toutes ces théories de gravité quantique, à la fois temps émergent, temps incertain, intrication temporelle, seront les réponses à la théorie qu'on trouvera qui sera capable d'unifier justement tous les intérêts.
C'est ça, la théorie unificatrice qui pourrait unifier toutes ces pièces du puzzle et qui nous entraîne bien loin. En même temps, on comprend tout ce que vous dites tant que vous êtes là. Je ne sais pas quand vous serez parti, si j'arriverai toujours à retenir ce que vous m'avez dit, mais j'ai quand même envie de m'arrêter sur votre côté magicien et illusionniste. Oui, j'y peux rien. À la radio, c'est compliqué hein, de nous illusionner. C'est plus facile en visuel. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire avant qu'on ne parte vers notre éphémérie du ciel d'Afrique? Une petite expérience.
Une expérience mentaliste, ça vous dirait?
Une expérience de mentalisme, absolument, Yann.
On va faire un truc très simple. Le mentalisme, c'est une illusion. Hein. La magie n'est toujours basée que sur un principe d'illusion. C'est l'illusion de la transmission de pensée. Je vous demandais de penser à un mot. Vous avez un mot en tête? Vous avez un mot en tête? Oui, vous l'avez en tête?
Je l'ai en tête.
Vous l'avez en tête, très bien. Vous allez me regarder, Caroline, ok? Et je veux que vous imaginiez la première lettre. On ne se connaît pas, d'accord?
On n'a rien préparé.
Les auditeurs vont croire qu'on n'a rien préparé. Regardez-moi, je veux que vous pensiez à la première lettre. Dites rien. Je veux que vous pensiez dans votre tête à la première lettre du mot. Et instinctivement, vos yeux, vous n'avez pas bougé, mais je sais que vos yeux vont la dessiner sans s'en rendre compte. Regardez-moi, ne faites rien. Regardez-moi. Pensez à la première lettre seulement. Regardez-moi, je la vois très bien dans votre esprit. Ça monte. Un M, c'est ça?
Mais c'est incroyable.
C'est vrai, c'est un M?
Bah oui.
Est-ce que vous avez la dernière lettre du mot en tête?
Oui.
Regardez-moi. Je veux que vous l'imaginiez sur un tableau noir dessiné à la craie. Regardez-moi. Ça descend et c'est horizontal. Un T, c'est ça?
Waouh!
C'est ça?
C'est rien préparé. Oui, non. C'est ça.
Est-ce que vous avez la deuxième lettre en tête?
Ouais.
Elle est très facile, la deuxième. Très facile. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Un O, c'est ça?
Non, mais c'est pas possible, Yann Mambrini. Là, est-ce moi, que, je, est-ce faut que je me pince,
est-ce
ça.
Est-ce que vous avez le mot en tête?
Oui.
Alors, je veux que vous imaginez les lettres, les unes après les autres, dessinées au tableau, comme ça. Tac, tac, donc M, donc M, O, tac, 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 T, M, O, tac, tac, comme ça. Vous les imaginez passer comme en flash. Regardez-moi. Ça flash. J'en vois. Je vois un E qui vient de passer. Un N. C'est vrai, il y a un N. M, il y a deux M, ouais, c'est ça?
Je vois oui, c'est
M.
Ça.
Ouais, je vois deux M. Répétez-le bon, dans votre tête.
Le non, mot, ne dites rien. Dites, je dis rien.
Dites rien, répétez-le dans votre tête. Mom, mom, man, to, tum, tum, mom. Moment, 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 un moment.
Oui, un moment.
C'est ça que vous avez en tête?
C'était le mot moment.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le
mentalisme. C'est pas possible. Écoutez, non, mais il va falloir qu'on recommence. Il faut que je dise à nos amis auditrices et auditeurs, je suis assez scotché. Il va quand même falloir que je continue à présenter l'émission, notamment le ciel d'Afrique à suivre. Mais d'abord, je vais quand même citer, parce que vous n'êtes pas que mentaliste, vous êtes d'abord physicien théoriste, on est bien d'accord. Yann Mambrini, votre ouvrage La Nouvelle Physique, paru aux éditions Albin Michel, dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Avant de retrouver dans quelques instants notre éphémérie du ciel d'Afrique et féliciter comme il se doit le club astronomique de Majanga à Madagascar qui remporte la lunette offerte par SSVI et RFI, je vous propose de rester dans le domaine de l'illusion et des rêves partagés avec Sapa in Rêve, titre en créole, extrait du nouvel album de la réunionnaise Valérie Chantef et Terre là-bas dans la playlist du mois sur RFI.
Assis sur le bord de la mer, côté Outlam, m'y écoute mon imagination. Moi, la perle, mon flamme, dans le cabaret, l'émotion, ma rodalie derrière l'horizon. Mon ciel si haut, ça part un rêve, non, là où cache l'amour, il monte si mon rein, il pèse. Côté Outlam, m'y cherche, m'y redoute l'attention. Où est mon fanal, mon chemin galisé? Où est mon canal, mon secret danse dans Alizé? Mon Dieu, si où ça part un rêve, non? L'homme cache l'amour, il monte sur mon rein, m'y pèse le mot.
Valérie Chantef, sous le ciel de la Réunion, ça pas une rêve sur RFI, puisque voici l'heure de retrouver notre professeur de planétologie préféré, Sylvain Boulet, pour notre éphéméride mensuelle du ciel d'Afrique, sous les étoiles, exactement.
Ciel d'Afrique, sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain, on peut commencer par féliciter le club d'astronomie de Majanga à Madagascar qui vient de remporter la lunette astronomique mise en jeu et offerte par SSVI et RFI. Un joli cadeau, hein, franchement, pour préparer le festival Majanga sous les étoiles en juillet prochain avec la formidable association d'astronomie de Madagascar, Aïkintana, qui va rejoindre donc notre formidable réseau d'astronomes sur tout le continent, dans la Caraïbe et l'océan Indien. Et justement, Sylvain, que pourra-t-on observer sous le ciel d'Afrique ce mois-ci et jusqu'au 15 mai prochain?
Bonjour Caroline. Alors niveau planète, il vous faudra surtout vous lever en fait le bon matin pour observer le balai des planètes. En effet, Saturne, Mars et Mercure seront bien visibles à l'horizon est juste avant le lever du soleil. Alors Saturne et Mars ne seront pas vraiment loin l'une de l'autre le 15 avril et commenceront dans les semaines à s'éloigner. Vous pourrez observer notamment un joli rapprochement le 4 mai de Saturne avec le croissant lunaire. Le 5 mai, bien le croissant lunaire sera tout proche de la planète Mars. Et concernant Mercure, très proche du soleil jusqu'à fin avril et donc inobservable, elle sera détectable dans les lueurs de l'aube à partir de début mai. Alors pour la trouver, vous pouvez attendre le 6 mai car le croissant lunaire sera juste à côté. Concernant Vénus, eh bien, la planète Vénus est quant à elle invisible dans les prochaines semaines et vous pourrez aussi quand même observer Jupiter dans les lueurs du crépuscule plein ouest, juste après le coucher du soleil.
Et il y aura aussi, je crois, Sylvain, une comète à ne pas rater.
Oui, Caroline, c'est encore le moment d'observer la comète Pons-Brooks, dont j'avais parlé lors de l'éphémérie du mois dernier. Je vous rappelle que cette comète, découverte par Jean-Louis Pons en 1812 et redécouverte en 1883 par William Robert Brooks, nous rend visite tous les 71 ans. Alors ne la ratez pas, elle est de plus en plus brillante et elle sera à son point le plus proche du Soleil, le périhélie, le 21 avril. Elle sera alors à une distance de 240 millions de kilomètres. Wow. Pour la trouver, il vous faudra fixer l'horizon ouest, juste après le coucher du soleil. Elle sera autour du 20 avril dans la constellation du Taureau, pas très loin de Jupiter, et elle migrera gentiment dans la constellation de l'Éridan, dans la direction de Rigel, de la constellation d'Orion. Alors à l'œil nu, vous devriez voir une petite tache floue, et je vous conseille quand même de prendre une paire de jumelles pour bien profiter du spectacle. Essayez vraiment de l'observer plus tôt dans les prochains jours, car ensuite elle devrait se perdre de plus en plus dans les lueurs du crépuscule.
Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi de jolies étoiles filantes à voir.
Oui Caroline, on reste dans la thématique cométaire, puisque la Terre traversera deux nuages de poussière cométaire avec deux pics d'étoiles filantes visibles entre le 15 avril et fin mai. Alors dans la nuit du 22 au 23 avril, en deuxième partie de nuit, ce seront le pic des Lyrides, relié à la comète Thatcher, qui seront visibles. Alors les étoiles filantes sembleront venir de la constellation de la Lyre, mais avec la pleine lune, le 23, malheureusement, le spectacle sera un peu gêné par la lueur de notre satellite. Ensuite, ce seront les états aquariens semblant venir de la constellation du Verseau qui seront bien visibles le 6 mai avant le lever du soleil. Alors cet essaim d'étoiles filantes est connu car ce sont des poussières de la fameuse comète Halley que nous allons croiser. Alors la Lune sera nouvelle le 8 mai, vous devriez donc voir dans de bonnes conditions une bonne dizaine d'étoiles filantes par heure.
Ouh, le mois de mai sous une pluie d'étoiles filantes, ça promet. Merci beaucoup Sylvain Boulet, on se donne rendez-vous autour du 15 mai prochain et vous pouvez déjà concourir, chers amis auditrices et auditeurs, pour gagner une nouvelle lunette astronomique.
Oui Caroline, je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Alors pour participer, c'est très simple. Vous envoyez sur notre page Facebook L'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Le gagnant sera annoncé le 15 juillet. Bonnes observations, bon su à tous et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
Merci Sylvain, nous le rappeler tous les mois sous le ciel d'Afrique. Chronique à retrouver aussi en images sur la chaîne YouTube de RFI. La chronique Ciel d'Afrique est évidemment aussi disponible en replay sur l'application Pure Radio, qu'on se le dise. Et puis j'ai envie de reciter l'ouvrage de notre invité du jour qui m'a scotché avec son tour de mentalisme et qui est surtout physicien théorique, Yann Mambrini, La Nouvelle Physique, paru aux éditions Albin Michel. Cher Yann, vous revenez quand vous voulez pour nous parler physique quantique, fourmis qui s'appellent Newton et Einstein et faire du mentalisme peut-être.
Avec grand plaisir.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Raphaël Pluxva en coulisses, Caroline Lachowski au micro. On se retrouve désormais en direct sur RFI tous les lundis et mardis. Un grand merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée et pour toutes vos questions qui nous inspirent. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.